Donc, le principe de la thermographie, en fait, consiste à capter le rayonnement infrarouge qui est émis par un bâtiment. Le rayonnement infrarouge traduisant, du coup, les déperditions du bâtiment. Et donc, grâce à cette caméra thermique, on peut mettre en évidence le rayonnement, en fait, du bâtiment vers l'extérieur, mais aussi, on peut avoir des clichés pris de l'intérieur. Et auquel cas, si vous avez de l'intérieur un mur qui est froid, il va apparaître bleu de l'intérieur, puisqu'il sera froid en l'occurrence. Ce qui apparaît en bleu sur un cliché thermographique, c'est justement un mur qui ne rayonne pas du coup vers l'infrarouge. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que les émissions infrarouges dépendent du matériau en fait qu'on vise. Donc on règle un paramètre qui s'appelle l'émissivité en fait du matériau, qui est une propriété intrinsèque au matériau, hein, suivant que c'est de la pierre, du béton, du métal, du vitrage, etc. Donc la coloration de l'image, vous l'avez compris, est fonction des déperditions, des valeurs bleues pour les plus faibles de ces déperditions, jusqu'à des nuances de rouge pour les plus importantes. Et bien précisé également que la thermographie ne vaut pas un diagnostic de performance énergétique. Ce qu'on appelle un diagnostic de performance énergétique en matière de logement, c'est donc un bilan thermique, si vous voulez, qui vous donne le niveau de performance via une étiquette qui va de A jusqu'à G, un peu comme on a sur les frigos, en fait, pour caractériser l'efficacité énergétique de l'équipement. Je ne sais pas si vous avez déjà visualisé un DPE, hein, vous en avez au moins tous eu en main. Venez voir là, par exemple, on a des murs qui sont bleus. Alors quand c'est bleu,
c'est bon.
C'est précisément que les murs sont isolés.
D'accord.
C'est assez courant ça. Les locaux commerciaux qui sont au rez-de-chaussée de ce genre d'immeubles sont souvent des passoires thermiques.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'on a des grandes baies vitrées. Mais là, on a un bon exemple, vous hein, voyez, de...
Et là, donc ça veut dire que le dessus de la fenêtre est en déperdition.
Alors, c'est pas...
Ah ouais, est-ce que c'est normal?
C'est pas qu'il y a forcément des défauts d'étanchéité, hein, pour le coup. C'est que il y a des mouvements convectifs en fait en partie haute.
Bah,
Donc,
voilà,
après, ça dépend quand les volets ont été ouverts là, mais en l'occurrence.
Ouais.
Après, ça c'est vraiment une histoire d'échelle de couleur. Les locaux commerciaux sont toujours bon des passoires thermiques parce que c'est souvent des grandes baies vitrées. Hein, en fait,
ouais,
c'est
ouais.
Essentiellement des grandes baies vitrées. Il y a très peu de murs finalement. Mais là, par exemple, pour ce bâtiment. On a là, à mon avis. Alors, ce qu'on voit en fait là, à mon avis, c'est des radiateurs. Sous la fenêtre là, c'est un radiateur. C'est un radiateur parce que et donc le mur a priori n'est pas isolé parce que si sous la fenêtre, en allège de la fenêtre, vous avez un radiateur, ben, il y a une partie de la chaleur du radiateur qui traverse le mur et on les voit sur les clichés que j'ai pris il y a quelques semaines. On les met vraiment en évidence. Je vous explique une chose, c'est que là, voilà, dès qu'on a, si on a le soleil qui frappe une façade, ça fausse la façade rayonne. Donc,
après, on a pas assez de recul dans la partie étroite. Parce que là, il y en a qui sont pas rénovés du tout. Mais il y en a qui sont pas chauffés non plus, puisqu'elles sont pas habitées. Donc là, je serais bien isolé.
Oui,
alors,
le mur
en fait.
Est isolé. Là, on voit bien la différence avec le local commercial.
Ah, en fait. Les matières passent, ça change complètement l'échelle. Ça, c'est impressionnant.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ah ouais, là, il y a vraiment.
Le logement au-dessus est isolé, c'est certain. Et alors, la différence entre un double et un simple vitrage, c'est là, le vitrage est bleu.
Ouais.
Donc, en l'occurrence, quand il est bleu, c'est que c'est du double. S'il est rouge, si c'est du simple vitrage, on aurait du rouge, à coup sûr.
Donc, c'est, même au niveau des fenêtres, c'est bien. Okay.
Oui, oui,
et
oui.
Par contre, s'il y avait un défaut d'isolation,
et ben, le
retour,
le,
on verrait.
Le, ah,
hein,
mais
là,
le,
voilà.
Typiquement, quand c'est un mur n'est pas isolé.
Bon, quand il y a un défaut, il peut y avoir l'isolation, mais avec des défauts.
Le fait que je bouge légèrement la caméra, ça change le. En fait, il y a un pointeur, en fait. Donc, ça. Le pointeur, lui, il capte la température, en fait. La température qui s'affiche ici, c'est ce que pointe le pointeur.
Là, et pourquoi ça passe des bleus à rouges, des fois?
Eh ben parce que si on pointe une zone plus froide, ça décale l'échelle de température, c'est simplement ça. Là, par exemple, vous voyez, sans préjuger l'isolation des murs, les fenêtres, par exemple, vous voyez, sont bleues, sont très bleues. Ce qui veut dire que c'est du bon double vitrage. Ouais. Mais ce qui n'empêche pas que des fois, on ait des fenêtres en double vitrage, c'est-à-dire le vitrage apparaît bleu, mais l'étanchéité de la fenêtre autour est catastrophique. Donc,
voilà.
On a des fuites,
moi,
d'air.
Si vous chez moi,
ça fait des traits rouges autour. Quoi.
Voilà. Chez moi, c'est ce que je soupçonne que j'ai une mauvaise fenêtre, parce que je sens.
Le cas. Le tableau, c'est en fait la partie maçonnée qui encadre la fenêtre.
Moi, je pense que chez moi, j'ai un tableau et le dormant.
Et généralement, à ce niveau-là, c'est que si la jonction entre le mur et la fenêtre est mal réalisée, eh bien, y a un pont thermique au niveau du tableau, en fait. Donc,
on devrait le voir. C'est pour ça que ça peut être
utile. Clairement, on le voit. Hein, regardez, dans les angles. Chaque tableau, en fait, vous avez un pont thermique. Là. En théorie, quand on fait des travaux, on s'attend à ce que ces travaux soient bien réalisés.
Non, mais...
Ce que vérifier après coup, c'est une catastrophe. Parce que si on se dit, j'ai fait tout ça.
Oui, mais quand...
Finalement, ce n'est pas super efficace. Non, alors par contre, à l'inverse... C'est de s'assurer, quand on réalise des travaux, que la coordination entre les entreprises soit bien assurée. Parce que le menuisier vient poser ses fenêtres dans l'ordre. Après, le plaquiste, normalement, vient isoler les murs et faire le retour d'isolant au niveau des dormants, ce qu'on appelle les dormants, les parties fixes de la terre. Et s'assurer que la liaison soit correctement faite pour éviter justement les ponts thermiques, quoi. Les ponts thermiques, de toute façon, ils se situent à la jonction des dalles et des murs, à la jonction des fenêtres et des murs, à la jonction des planchers et des murs. Là, dans le bâti ancien, c'est moins évident que sur des copropriétés, par exemple, des années 60. Sur les copropriétés des années 60, ou non, plutôt années 80, ou 90, ou 2000, disons, qui ont été isolées par l'intérieur, souvent, on voit des grandes bandes.
Au niveau de la chape,
il y a des ponts thermiques, parce que si ça a été isolé par le... Imaginez là, la dalle comme ça. Ils ont isolé le mur par l'intérieur, mais le pont thermique en à-bout de dalle, lui, n'a pas été traité. Et donc, on voit souvent sur ces immeubles des années 90-2000 des lézards jaunes qui montrent que le pont thermique n'a pas été traité. La seule façon de traiter un pont thermique sur une copropriété de ce type, c'est d'isoler par l'extérieur, parce qu'on isole à la fois le mur et on supprime du coup le pont thermique, puisque la dalle...
Sur les parois sud, moi, on m'a dit que ce n'était pas intéressant, que ce n'est pas un endroit où on a tellement de déperditions.
Ça, c'est un faux débat, parce que les déperditions, c'est proportionnel à la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est physique. Hein. Donc, alors, vous allez me dire, au sud, on a plus de soleil. Certes, mais à l'extérieur en hiver, à l'extérieur en hiver, il fait aussi froid au sud qu'au nord, à l'est qu'à l'ouest. Alors vous avez plus d'ensoleillement, certes, mais le delta de température est là. Donc si vous avez une paroi non isolée, elle est déperditive. Donc ça, c'est un faux argument de dire je vais plutôt m'orienter sur renforcer l'isolation côté nord que côté sud. Il n'y a pas d'impasse à faire. Si on rénove un logement, si on isole les murs d'un logement, il faut isoler l'ensemble des parois. Il n'y a pas une paroi qui est moins déperditive qu'une autre.
Oui, mais vous dites sur les ponts thermiques.
Les fenêtres, les murs.
Tous les postes, idéalement, sont à traiter.
Quand ils font des diagnostics.
En fait, les déperditions, c'est entre le volume chauffé et l'extérieur, ou le volume chauffé et des volumes dits non chauffés, c'est-à-dire un garage, une cave. Donc dès que vous avez un plancher qui donne sur un sous-sol,
moi j'ai des caves.
Et que cette paroi est isolable, soit par le dessus, soit par le dessous, elle est traitable.
La mesure thermique, là, je vois, c'est la mesure du mur.
Oui, alors l'autre, malheureusement, elle n'a pas une bonne qualité. Je vais quand même vous la confier.
C'est la température du mur.
En théorie, c'est la température du pointeur. C'est à l'endroit où on pointe la paroi.
7 degrés, donc, le mur.
Ouais. Alors, on n'a pas des conditions de température extérieure extrêmes, quand même. Hein. On serait à moins 5 degrés, je pense qu'on aurait vraiment des choses plus significatives. Mais là... Oui, alors c'est étonnant, parce que même la façade a été reprise. Alors est-ce qu'à l'intérieur du logement, c'est quand même bizarre que si c'est logement locatif, de toute façon c'est du locatif. A priori, c'est les radiateurs.
Radiateurs.
Il y a moins de déperdition puisque ça.
Non, si c'était les radiateurs, ça serait.
Bah, est-ce les radiateurs, ils sont peut-être isolés derrière ou quoi?
Non, il n'y a pas de radiateur, monsieur dit. Donc là, c'est pas les radiateurs, c'est effectivement, il doit y avoir une différence de...
On a un renfoncement, en fait, sous la fenêtre, à la manière d'un château.
Non, les radiateurs, en général, on les voit rouges. On voit des gros points rouges.
Bah oui, à gauche de la fenêtre, j'ai mis des plaques d'aluminium.
Oui, alors que justement, à minima, quand vous n'avez pas, ou en attente de travaux d'isolation des murs, ce qu'on peut faire à minima, c'est mettre derrière les radiateurs des réflecteurs, en fait.
Un réflecteur, voilà.
Ça permet de renvoyer la perte, en fait, du radiateur. Parce que c'est flagrant, hein. Je vous montrerai tout à l'heure des clichés que j'ai pris quand il faisait plus froid. Un radiateur, on le voit avec la caméra thermique, ça fait un gros point rouge, hein, en allège des fenêtres. C'est flagrant. Là, je vais faire quelques rappels généraux sur l'énergie dans le logement. Pour rappeler déjà que depuis 2020, le prix de l'énergie a flambé, et notamment les deux énergies les plus utilisées, alors peut-être pas à Saint-Jean pour le coup, mais l'électricité entre 2020 et 2026 a pris, on était en dessous de 20 centimes le kilowattheure, on a pu monter jusqu'à à peu près à 25 centimes, donc on a eu une hausse d'à peu près 25% du prix de l'électricité. Le gaz, lui par contre, le gaz de ville, il a doublé, Tout ça en raison du contexte lié à la guerre en Ukraine en particulier, et puis à la hausse inévitable du prix de l'énergie. Et là, vous avez l'Argus des différentes énergies en septembre 2025, pour vous situer donc un petit peu par rapport aux différents types d'énergie. Le soleil, évidemment, c'est gratuit, mais malheureusement, on ne peut pas chauffer un logement qu'avec le soleil. Enfin, en tout cas, ça génère des apports solaires qui contribuent justement aux besoins de chauffage. Mais c'est une énergie gratuite qui n'est que partielle pour les logements. Les formes d'énergie bois sont quand même relativement bon marché, notamment le bois bûche, et notamment quand c'est du bois local. Même s'il subit sa hausse, lui aussi. Toutes les énergies augmentent, mais dans une moindre mesure. Le granulé, lui, est un combustible qui est issu du compactage de sciure via un process industriel et donc qui nécessite des coûts énergétiques de fabrication. Donc le granulé a lui aussi augmenté quand même dans la même tendance que le gaz. Alors il n'a pas doublé quand même. Il y a moins de problèmes de particules fines parce que c'est un combustible qui est quasi brûlé dans son intégralité du fait des rendements des poids. Voilà. Et le bois bûche, effectivement, le problème, l'inconvénient, c'est les émissions de particules. D'où l'intérêt d'avoir, pour le bois bûche, de bons systèmes, de bons équipements de chauffage. C'est-à-dire, si vous brûlez du bois dans une cheminée ouverte, vous avez 10% de rendement, alors que si vous le brûlez dans un poêle de dernière génération, les rendements sont plutôt de 70-80%. Deuxième facteur important pour le bois, c'est sa qualité. Son essence déjà, son taux d'humidité.
Oui, c'est surtout
le taux. Ouais, surtout le taux d'humidité. Plus vous brûlez un bois humide, plus le pouvoir calorifique est médiocre et moins vous avez un rendement efficace. Mais sur l'histoire des particules fines, c'est un vrai sujet aussi. Et donc, du coup, les fabricants de systèmes de chauffage, que ce soit des chaudières bois bûche ou les poêles, on fait des progrès considérables depuis les années 70.
J'ai même entendu parler d'interdiction.
C'est pour ça qu'il y a même certaines collectivités, communes ou communautés de communes plutôt, qui ont mis en place des plans bois. C'est-à-dire notamment la communauté de communes de Valence-Romain-Aglo a relancé récemment et octroie une prime à l'acquisition d'un système de chauffage au bois performant en remplacement d'un vieil équipement d'avant 2002, je crois. Certains sont frileux au granulé, pourquoi ? Parce qu'ils sont tributaires d'une filière de production industrielle, d'une part, donc avec un granulé qui est fluctuant, et parce que les poêles à granulé nécessitent de l'électricité. Et qu'en l'occurrence, l'avantage du bois bûche, c'est ça, c'est que c'est une ressource locale, facilement accessible. Des fois, on a même des coupes à foigères, donc qui sont des communes qui donnent... Ça devient rare, mais dans certaines petites communes rurales, ça revient à la mode. Et je trouve même ça plutôt bien, parce que ça permet à des gens qui n'ont pas... Parce que bon, le prix de l'énergie est tel aujourd'hui que pour chauffer, ça permet à des gens modestes de pouvoir chauffer via des coupes qui sont gratuites. Bon, après, le bois déchiqueté, il est il reste marginal hein, comme énergie, hein, ça reste marginal, en tout cas dans le résidentiel. Après, y a, dans la Drôme, il y a énormément de réseaux de communes dans le Vercors, notamment, qui sont équipées, qui ont des réseaux de chaleur. Il y en avait un à Saint-Jean, d'ailleurs, mais qui ne fonctionne plus, qui alimentait des bâtiments communaux, des logements sociaux. Ben, je sais, en tout cas, pour résumer, voilà, qu'il y a pas mal de communes, Vassieux, Luz-la-Croix-Haute, Saint-Jean. Une installation de bois déchiqueté pour un particulier, c'est au bas mot 30 000 euros. Bas mot, hein. Par contre, pour quelqu'un qui a, pour un agriculteur qui a un broyeur, qui valorise son énergie, ça lui coûte rien. Rien pour chauffer ses 300 mètres carrés. Il n'a même pas besoin d'isoler. Il ne va pas isoler sa ferme. Et les énergies les plus chères, pour finir, bon ben c'est l'électricité, évidemment, et le propane, le gaz en citerne, qui est une énergie... Le gaz en citerne, mais bon, le propane est une des énergies les plus chères.
Ah, ça reste cher.
Ça reste cher, à moins d'avoir un prix négocié. Le pire, c'est les poêles à pétrole. Alors, on en parle moins parce que on utilise souvent les poêles à pétrole comme chauffage d'appoint, mais le pétrole, ce qu'on appelle le kerdan, le combustible pour les poêles à pétrole, est l'énergie au kilowattheure la plus coûteuse, même plus chère que l'électricité. Il y a beaucoup de locataires qui sont chauffés souvent électriquement dans des logements mal isolés, tellement mal isolés qu'ils consomment beaucoup d'électricité et qui substituent leur chauffage électrique avec ces poêles à pétrole, qui ont l'inconvénient... Alors bien sûr, on achète les bidons, on chauffe quand on veut, donc on a moins l'impression de consommer, mais pourtant c'est un combustible le plus cher, et sans parler que les poêles à pétrole génèrent énormément d'humidité. Et donc... Alors c'est ça, l'avantage du poêle à pétrole, c'est que ça se chauffe vite, et qu'on est moins tenté d'utiliser ces convecteurs. Un petit rappel sur les déperditions. Alors là, c'est le schéma d'une maison individuelle, hein, vous l'avez compris. La configuration du logement qu'on va considérer va dépendre de ses mitoyennetés, haute, au-dessus, sur les murs. Mais là, on est sur une maison, typiquement années 60, qui n'était pas soumise à réglementation thermique et qui n'aurait fait l'objet d'aucun travaux. C'est pour vous situer où se font les déperditions majoritairement. Alors bien sûr, le premier poste de déperdition sur un bâtiment, c'est la toiture. La chaleur montant, si vous avez des combles qui ne sont pas isolés, c'est la première des choses à faire. Les deuxièmes postes à égalité ou presque de déperdition sont les murs, évidemment, qui donnent sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés. Ça peut être un mur mitoyen d'un garage ou d'une grange... et qu'il n'y a pas de raison d'être sans isolation. Le renouvellement d'air, parce que ça, alors, le renouvellement d'air, ça va dépendre de la stratégie de ventilation de votre logement. Si vous avez un logement qui est dépourvu de bouches d'aération hautes et basses, comme dans les logements des années, on va dire, 60, bah souvent, c'est une ventilation par ouverture des fenêtres, quoi, pour évacuer l'humidité. Le confort thermique d'été, on en parle depuis 2003 du confort d'été. C'est une notion qui a été même intégrée dans les bilans thermiques consécutivement à la canicule de 2003. Où là, effectivement, il y a eu une mortalité accrue en été 2003. Et c'est là qu'on a commencé à se dire que dans les EHPAD, il faudrait mettre des clims. Mais aujourd'hui, du coup, quand on isole, il faut à la fois se soucier de la question du confort d'hiver, bien sûr, et c'est comme ça qu'on l'améliore en isolant, mais aussi du confort d'été, parce qu'en isolant, et pour éviter le recours à la climatisation aujourd'hui, et notamment si on voit des groupes extérieurs en façade de centres anciens, c'est que les logements sont souvent surchauffés, et c'est pas forcément des systèmes de chauffage là qu'on voit, c'est plutôt des clims, hein, pour rafraîchir l'été. Et en l'occurrence, pour éviter le recours à la clim, le choix de matériaux isolants a son importance aussi. On en parlait ce matin lors de la balade, c'est que pour isoler des combles, par exemple, il vaut mieux de la ouate de cellulose, par exemple, qui est plus dense et plus compacte, en soufflé du moins, que des rouleaux de laine de verre qui sont beaucoup plus mous. Parce que ce qui fait la qualité d'un isolant pour l'été, c'est sa densité. Ce qui fait sa qualité pour l'hiver, c'est son épaisseur. Alors c'est pour ça que, par exemple, pour les murs, on préconise, plutôt que de la laine de verre qui fait un peu accordéon, qui est un très bon isolant hein, pour l'hiver, Pour l'été, c'est plutôt catastrophique parce qu'elle est peu dense, elle est peu efficace pour amortir la chaleur qui vient de l'extérieur. Pourquoi la densité du matériau importe, c'est ce qu'on appelle le déphasage, c'est la capacité du matériau à freiner la pénétration de chaleur dans le bâtiment. Et c'est d'autant plus vrai dans les combles, et notamment les rampants. Alors, les rampants, c'est encore pire, parce que le rayonnement solaire frappant la toiture en été, si vous avez 20 ou 30 cm de laine de verre, il y a un déphasage de 3 heures. La migration de chaleur se fait en 3 heures. Alors que si vous isolez vos rampants avec de la fibre de bois, qui est nettement plus conseillée, avec une densité de 45-50 kg par mètre cube, donc deux fois plus que la laine de verre en l'occurrence, vous avez un déphasage qui est presque triplé. Donc ça va nettement réduire la montée en température des pièces qui sont mansardées, généralement. Après, vous avez des températures idéales aussi par pièce. Bon, la pièce la plus chauffée dans un logement, c'est naturellement la salle de bain. On veut généralement qu'elle soit dimensionnée, enfin, le système de chauffage soit dimensionné pour qu'elle soit chauffée à 22. Dans les pièces de vie, idéalement 19-20 degrés. Et dans les chambres, on n'est pas généralement obligé de chauffer à 20 degrés en permanence. Donc, on peut équiper les radiateurs de vannes thermostatiques pour tempérer à 17-18 degrés. Ou même la nuit, d'ailleurs.